France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Nous posons ce matin une nouvelle pierre de notre série consacrée à quelques grands travaux dans le monde après les gigantesques barrages éthiopiens ou chinois et avant les villes futuristes du Golfe, une rivière artificielle en Libye, héritage de Muammar Kadhafi.
Au nom d'Allah, nous posons la première pierre du projet de la grande rivière artificielle, dont les sources jailliront, avec l'aide d'Allah, de cet endroit situé au cœur du désert, entre Sarir, Tazerbo et Koufra.
L'eau est essentielle à notre travail et à notre vie. Grâce aux leaders, nous aurons désormais suffisamment d'eau. De l'eau douce, fantastique.
There is water in the Libyan Sahara deserts since.
Il y a de l'eau dans le désert du Sahara libyen depuis des millions d'années.
And we have to use.
Et nous devons l'utiliser.
We have to use this water.
Nous devons utiliser cette eau.
This water since 15 years ago now.
Tout le monde la boit depuis 15 ans maintenant.
Everybody happy.
Et tout le monde est heureux.
C'est une rivière qui ne figurait pas il y a un siècle sur les cartes géologiques de la Libye. Une rivière qui n'est ni capricieuse, ni tumultueuse, ni paresseuse ou nonchalante. Et plus curieuse encore, une rivière qui ne se jette nulle part, dans aucun fleuve ou cours d'eau, comme toute rivière qui se respecte. Car cette rivière court essentiellement dans des tuyaux, sur des centaines de kilomètres, on l'a dit artificielle car elle a été créée par l'homme. En l'occurrence, Muammar Kadhafi lui-même, entouré d'ingénieurs qui ont bien voulu le suivre dans son projet extravagant dans les années 80. Il s'agissait d'extraire les grandes réserves d'eau souterraine du bassin de Nubie, dans le sud du pays, vers le nord, les villes de la côte où est concentrée la population libyenne. En Libye, on l'appelle Great Man-Made River, en français la grande rivière artificielle. Le projet est resté inachevé après la mort de Muammar Kadhafi en 2011. Cette même année, il a été aussi endommagé par les bombardements, mais une partie de son infrastructure existe toujours et fournit encore 60% des besoins en eau de la population. Que reste-t-il de cet héritage hydrique et comment est-il géré dans le contexte actuel très particulier de la Libye, un État coupé en deux ? Ce n'est pas une expression mais une partition de fait, avec deux centres de pouvoir distincts, le gouvernement dit d'unité nationale à l'ouest, à Tripoli, et à l'est, les hommes du maréchal Haftar autour de Benghazi. Bonjour Virginie Colombier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'université Louise Guido Carli de Rome et vous êtes actuellement à Rome. Merci d'être avec nous. Ainsi qu'à vous, Sébastien Paluo. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes géographe, auteur d'une thèse sur le développement de l'irrigation dans la Géfara tuniso-libyenne. Vous étiez sur le terrain à l'époque où Muammar Kadhafi était encore au pouvoir et vous connaissez bien l'histoire et l'historique de ce projet de rivière artificielle. Qui lui en a soufflé l'idée ? Est-ce que c'était une lubie soudaine et sortie de nulle part ou la prise de conscience préexistante d'un besoin en eau douce ?
Ah, je ne sais pas exactement qui lui a soufflé, mais c'est vrai que c'est un projet qui a été élaboré dans les années 70, qui a été évoqué à la fois par des Libyens, mais aussi, c'est quand même une époque où il y avait énormément de bureaux d'études occidentaux qui travaillaient en Libye. Et puis, il faut savoir que ces logiques un peu de transfert d'eau se font aussi, en fait, dans plein d'autres pays, mais à des échelles qui sont plus restreintes. Donc, c'est juste que ça a été, ça s'est construit dans un temps un peu particulier dans lequel la Libye connaît un boom pétrolier assez important dans les années 70. Avec un budget qui est colossal, et donc quelque part le coût n'est plus un problème.
Et donc, le budget lié à la manne pétrolière, notamment. Une dégradation des ressources en eau aussi. Quand est-ce qu'on a commencé à en prendre conscience en Libye ?
Alors, très tôt, parce que dès la fin de la colonisation italienne, en fait, on comprend déjà que la surexploitation des nappes avec l'agriculture est trop importante. Et puis, dans les années 60, alors notamment dans le nord-ouest de la Libye, qui concentre en fait déjà la moitié de la population libyenne, hein, autour de Tripoli, il y a une dégradation très forte des nappes côtières dès les années 60. Et ce phénomène va aboutir en fait à une intrusion de l'eau de mer dans les nappes côtières. Et donc, la zone qui est la plus vitale pour l'agriculture libyenne, eh bien, elle va être fortement endommagée par ces intrusions d'eau saline. Donc, il y a à la fois un double phénomène, c'est-à-dire des besoins en eau qui sont immenses, puisque la population libyenne va passer en gros d'un million d'habitants en 1950 à aujourd'hui 7,5 millions. Donc, c'est vraiment une multiplication très importante. Et en même temps, une dégradation des ressources renouvelables qui a déjà été très, très limitée.
Donc une dégradation des ressources, ces nappes proches du littoral qui sont infiltrées par l'eau salée, ce qu'on appelle le phénomène de bassin versant inversé, et d'un autre côté, beaucoup plus au sud, des réserves d'eau fossile. Comment sait-on et depuis quand que des réserves d'eau fossile, donc d'eau pure, se trouvent là sur une gigantesque zone de 250 000 km entre la Libye, l'Égypte, le Soudan et le Tchad ?
Alors dans les années 50, on a commencé à trouver ces gisements, et puis ça s'est poursuivi dans les années 60-70. Et effectivement, on a mis à jour en fait des réserves qui sont effectivement des réserves vraiment gigantesques, hein, qui sont héritées des périodes qui sont plus humides. Et dès les années 60-70, notamment quand Muammar Kadhafi prend le pouvoir en 1969, il y a une volonté de développer l'irrigation dans ces zones-là. Donc le premier stade de développement, c'est vraiment de développer l'irrigation dans ces zones qui sont des zones sahariennes.
Le bassin de Nubie,
exactement.
C'est ce qu'on
et les autour des oasis de Koufra notamment. Et le pouvoir se rend bien compte qu'en fait, il faut acheminer la main-d'œuvre dans ces zones sahariennes, et ça pose des problèmes de logistique. Donc en fait, au lieu de déplacer la population vers les zones sahariennes, en fait, on va déplacer les eaux du Sahara vers la population qui est située dans les côtes.
Principalement dans les côtes, et d'ailleurs cette urbanisation ne cessera de croître pendant un demi-siècle, avec une population donc qui était en train d'augmenter fortement déjà, une urbanisation intense de la côte qui est aussi liée au rayonnement économique de Tripoli au fur et à mesure, l'absorption des flux migratoires également. Quand Muammar Kadhafi prend le pouvoir, Virginie Colombier, lors de ce coup d'État du 1er septembre 1969, il promeut une Libye forte, souveraine, y compris en matière alimentaire, agricole et donc hydrique. Au service de quel projet politique présente-t-il ce projet hydraulique ? Quel discours cela sert à ce moment-là ?
Je pense que c'est important de remettre l'arrivée au pouvoir de Kadhafi dans le contexte régional. Il prend le pouvoir avec un groupe d'officiers de l'armée en 1969 et il fait ça en étant inspiré en fait de ce qui se passe déjà dans la région et en particulier au Moyen-Orient depuis plus d'une décennie. En fait, c'est un fervent admirateur de Nasser, donc le grand homme de l'Égypte voisine. Et son arrivée au pouvoir s'inscrit dans le même type de philosophie et d'idéologie qui est en fait de promouvoir le panarabisme, donc une sorte de renouveau, de la nation arabe, mais aussi des projets qui ont d'ailleurs tous échoué, d'unité de la nation arabe et de bien sûr d'indépendance, de souveraineté. Et donc le projet de la grande rivière artificielle s'inscrit dans ce cadre-là, en fait, de retrouver ou de construire la grandeur nationale, de se dégager des influences des anciens colons et des puissances occidentales, et donc de montrer que la Libye, comme partie de la grande nation arabe, peut faire de grandes choses et de belles choses. Et donc il y a cette dimension de renouveau, mais aussi de développement économique. Il ne faut pas oublier que, également, la Libye, d'abord, est un État très jeune, qui a acquis son indépendance en 1951, et qui fait partie, au moment de la création de l'État indépendant, des pays les plus pauvres du monde. Et c'est seulement à partir de la fin des années 50, dans le cadre de l'exploration pétrolière, qui d'ailleurs est à l'origine de la découverte des grandes nappes souterraines fossiles dont on parle, c'est dans ce contexte-là qu'en fait tout change. et que d'un seul coup, il y a des moyens qui sont à disposition du nouveau pouvoir qui lui permettent d'envisager des grands projets de ce type-là. Encore une fois, la Libye a une autre particularité, c'est qu'il faut pas oublier ce qu'est la géographie de la Libye. On a un État qui représente à peu près 3 fois la superficie de la France et qui est en partie à peu près 90% du territoire est constitué de déserts. Donc la nécessité de trouver de l'eau, d'irriguer, de répondre à des besoins en termes d'agriculture et d'indépendance alimentaire est quelque chose qui est une nécessité en fait quasiment naturelle. Et donc Kadhafi s'empare de cette thématique-là et en fait un des grands projets qui va être, disons, le phare de son action.
Donc un multiple enjeu politique, notamment, vous le rappeliez, celui de réunir ces 3 régions historiques de la Libye que sont la Tripolitaine au nord-ouest, la Cyrénaïque à l'est et le Fezzan au sud-ouest. 3 régions éloignées d'un point de vue culturel qui n'ont jamais fonctionné ensemble. Et l'idée est de faire en sorte qu'une rivière artificielle puisse les rapprocher. On verra en quoi ça peut être possible dans son idée. En tout cas, ce discours très fort d'une Libye souveraine, y compris en matière alimentaire, Kadhafi qui disait il n'y a pas d'indépendance pour un peuple qui se nourrit grâce à l'outre-mer, puisque l'alimentation à l'époque était très fortement importée. Et bien c'est pour cela que en août 1984, c'est lui-même qui vient annoncer, poser la première pierre du projet de la grande rivière artificielle à Sarir.
Dans une magnifique série de centaines de puits, l'eau s'écoulera vers le nord à travers des tuyaux gigantesques de 4 mètres de diamètre, effectuant le plus long trajet jamais réalisé par de l'eau douce, conformément aux ordres des citoyens arabes libyens souverains et selon leur libre volonté, afin que ce flux atteigne l'endroit souhaité et parcourt des milliers de kilomètres. Nous acheminerons l'eau vers le nord sur des milliers de kilomètres, telle est notre vision. Lorsque les pipelines seront achevés, nous disposerons du plus grand réseau d'irrigation que le monde ait jamais connu.
Alors, ce qui est prévu à ce moment-là, ce sont des travaux sur 25 ans en 5 phases, 4000 kilomètres de canalisation en béton, canalisation de 4 mètres de diamètre. Vous, Sébastien Palliot, vous avez pu voir certains tronçons de cette Great Man-Made River, cette grande rivière artificielle, pour qu'on puisse vraiment se la représenter. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que partout elle est couverte? Est-ce que partout il s'agit de tuyaux? Ou parfois on la voit quand même émerger, y compris dans des cuves, des réservoirs ou juste gambader à l'air libre?
Alors, elle gambade pas à l'air libre, effectivement. Il n'y a pas de poisson dans cette grande rivière. Non, c'est surtout des tuyaux qui sont enterrés. Hein. Donc, c'est vrai que moi, quand je suis allé en Libye, le dernier tronçon, donc à en gros une centaine de kilomètres au sud de Tripoli, était en train de se mettre en place. Et voilà, on voyait c'est comme une très, très, très grande, une gigantesque route, en fait, avec des très gros tuyaux qui sont, en fait, enterrés. Alors, ensuite, cette eau, elle est acheminée à des réservoirs, et puis ensuite, elle est placée dans les réseaux d'adduction d'eau potable ou sur les périmètres irrigués.
Mais les réservoirs, pardon, dont certains sont à l'air libre, d'ailleurs, ce qui pose des problèmes d'évaporation, ce qui fait très très chaud.
Alors certains l'avaient été. Maintenant, je pense qu'ils ont modifié cela dans un deuxième temps, parce qu'effectivement, on est sur des températures qui font qu'il y a une évaporation qui est très importante. Donc c'est surtout un système qui est enterré. Donc c'est vrai que même si l'iconographie libyenne montre une rivière en bleu sur les cartes, etc., en réalité, c'est un réseau essentiellement souterrain.
Et les ingénieurs, à ce moment-là, étaient d'accord pour suivre Muammar Kadhafi, ou certains pensaient que c'était infaisable et essayaient de l'en dissuader?
Alors, il y a eu, au tout début des années 80, la FAO avait notamment proposé qu'il y ait une autre
l'organe
solution.
L'organe de l'ONU l'organe pour l'agriculture.
Effectivement, qu'il y ait une autre solution, puisque c'était plutôt sur une logique de dessalement de l'eau de mer pour pouvoir approvisionner les populations. Finalement, c'est cette logique de grande rivière artificielle qui a été choisie, d'une part parce qu'en fait, pour le volume d'eau que ça représente, hein, faut bien comprendre que la grande rivière artificielle, ça permet de doubler les ressources qui sont renouvelables de la Libye en eau. Donc c'est gigantesque en fait. Ça permet de c'est vraiment un volume qui est impressionnant. Et puis deuxième aspect, à cette époque-là, début des années 80, c'est surtout l'argument du coût qui va être avancé par la Libye en disant le dessalement de l'eau de mer va coûter trop cher. Et en fait, le fait de pouvoir acheminer des volumes d'eau qui sont très importants, ça va nous coûter moins cher. Donc il y a cet argument économique qui a joué, et après les éléments technologiques, techniques. Bon, en fait, c'est une prouesse technologique, mais en soi, la technologie a existé et il n'y a pas eu vraiment de très grandes problématiques. Il y a une problématique qui était plus politique, liée au fait, ensuite à l'embargo et au fait que, à partir de 82 et de la dégradation de la situation politique et de l'isolement diplomatique de la Libye, la technologie étrangère, elle est moins présente en Libye.
C'est ça, Virginie Colombier, cette prouesse technique l'est d'autant plus qu'elle a été exécutée à une période où la Libye était sous différents embargos internationaux. La Libye, qui à ce moment-là s'affiche comme un État fort capable de faire fleurir le désert, en a difficilement les moyens à ce moment-là.
Oui et non. Le projet est lancé en 1983 et effectivement la décennie des années 80 correspond à une phase d'isolement croissant en fait pour la Libye. Kadhafi et son régime sont accusés de soutenir un certain nombre de groupes terroristes à l'échelle internationale. Il a tout un projet en fait anticolonial de lutte, de libération, etc. Et donc sa politique d'ingérence régionale lui vaut d'être rapidement placé sous sanctions américaines, puis sanctions onusiennes, etc. Et place le pays, en fait, dans une situation de fait d'embargo qui rend très difficile les collaborations extérieures. Et par ailleurs, Kadhafi est devenu une sorte de paria à l'époque. Et donc, si le projet n'est pas forcément contesté au niveau interne, au niveau international, Kadhafi est pris pour un fou, en disant voilà, c'est encore. D'ailleurs, il y a des surnoms en fait de la Grande Rivière qui, au lieu de Great Man-Made River, disent c'est la Grande Rivière du fou, Great Mad Men River. Mais malgré tout, le projet réussit à se réaliser. Il y a en particulier des sociétés sud-coréennes qui jouent un rôle important. Et puis, il y a une perspective de profit qui fait que malgré tout, il y a un certain nombre d'entreprises étrangères qui se rapprochent du projet et qui participent.
Alors que c'est un projet lancé au nom d'une souveraineté ou d'un souverainisme libyen, mais néanmoins, des entreprises privées d'abord et étrangères par la suite sont impliquées.
Oui. Il y a par exemple en particulier des sociétés sud-coréennes, une grande société sud-coréenne qui par ailleurs fera faillite par la suite, mais qui joue un rôle absolument central dans la réalisation, pas tellement des canalisations en elles-mêmes qui sont construites en fait en Libye. Donc il y a deux usines de fabrication qui sont installées en Libye et qui ont pour objectif donc de construire ces énormes canalisations en béton. Il faut s'imaginer que à certains endroits, elles sont tellement grandes qu'on peut passer avec un petit camion à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à une échelle assez gigantesque. Le résultat final, c'est quelque chose qui correspond à peu près 4000 km de réseau de pipeline, des stations de pompage, des puits. Donc c'est vraiment un grand, grand projet qui finalement, en dépit des critiques et des accusations de folie dont on couvrira Kadhafi à l'époque, qui en grande partie réussit au moins dans la partie qui a été effectivement réalisée. Mais ensuite, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est que au moment où la Libye s'ouvre de nouveau, dans les années 2000, il est clair qu'il faut aussi continuer à entretenir, à maintenir. C'est plus seulement l'investissement initial, mais c'est la thématique de la gestion, de la maintenance de cette énorme structure. Et c'est ce qui va poser plus de problèmes et ce qui pose plus de problèmes dans la période actuelle, d'ailleurs.
Cette eau servira à tout le monde. Elle servira les agriculteurs qui pourront construire leurs fermes eux-mêmes en travaillant dur pour leurs terres. Avant, ils n'avaient pas d'eau. Maintenant, ils en auront. C'est une nouvelle vie pour eux. La Grande Rivière artificielle, c'est une nouvelle vie pour tout le monde. Pour ces agriculteurs qui vivent dans les régions côtières et pour les agriculteurs qui n'avaient pas d'eau avant.
Extrait d'un documentaire qui date de 2001 de Winfried Spindler sur la Grande Rivière artificielle libyenne. C'est le directeur adjoint de l'autorité de la Grande Rivière qui parle ici et qui explique en quoi ce projet doit servir. On était encore en 2001, l'agriculture libyenne, toujours au service de cette souveraineté alimentaire. Progressivement, Sébastien Palluau, vous écrivez que la part attribuée au secteur agricole pour cette eau-là va diminuer. Mais au départ, c'est vraiment pour eux qu'est destinée cette eau-là. Il est d'ailleurs question aussi de distribuer des terres arables, de faire en sorte vraiment que la Libye devienne une terre fertile partout.
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est au tout début, donc les premières projections dans les années, fin des années 70, début des années 80, l'idée c'est d'avoir 90% de l'eau qui va servir à l'agriculture. Et dans cette logique, dans ce projet politique d'autosuffisance alimentaire, avec aussi une dimension qui est aussi une dimension de peuplement, c'est-à-dire que Kadhafi veut aussi installer une paysannerie libyenne, et donc il y a une logique de développer des périmètres irrigués, un peu en retrait de la zone littorale, mais de voilà d'aménager des grands périmètres irrigués, d'installer des agriculteurs libyens, d'aménager des fermes, etc. Donc c'est la grande rivière artificielle, elle se construit aussi dans cette perspective. Mais au fur et à mesure donc de l'avancée de la grande rivière, hein, qui arrive dans les années 90. Du côté de Benghazi en Sierra Leone et puis en 1996 à Tripoli, la Grande Rivière elle sert d'abord en fait la population locale parce qu'en fait il s'agit d'abord de couvrir les besoins domestiques et finalement les périmètres irrigués ne vont être concernés qu'à partir des années 2000 dans un contexte qui par rapport aux années 80 a bien changé. C'est-à-dire que les grands périmètres irrigués qui devaient recevoir l'eau de cette grande rivière ont été largement modifiés. Il y a un certain nombre de forages illicites qui ont été creusés. Et donc, finalement, les périmètres qui avaient été visés, eh ben, dans les années 2000, ils ont quasiment déjà de l'eau, puisqu'en fait, dans le cadre de tractations un peu locales, de rôles un peu compliqué à analyser, mais avec les notamment les Shaabiyat qui sont ces instances régionales qui vont délivrer des autorisations de forage à ces agriculteurs, mais les périmètres irrigués qui étaient visés vont en réalité avoir déjà de l'eau dans les puits, donc la stratégie alors de la Libye est d'affecter différemment l'eau.
Vous expliquez par exemple dans vos travaux, Sébastien Paluot, que les agriculteurs libyens faisaient souvent travailler des cultivateurs égyptiens ou syriens sur leurs champs, moyennant un loyer, donc une partie de la production. Et ce sont plutôt ces cultivateurs égyptiens ou syriens qui procédaient au forage, en tout cas ceux qui savaient qu'ils étaient là pour un an ou deux et qui ne pensaient pas nécessairement, n'étaient pas nécessairement préoccupés par la préservation des ressources. Il y a quand même eu une certaine régulation, une incitation à économiser la ressource, à faire attention.
Alors, il y a effectivement, il y a une loi sur l'eau qui a été provoquée. L'Autorité générale de l'eau avait imposé le fait de ne pas pouvoir forer sur, notamment dans les zones côtières, dans ces périmètres irrigués qui étaient en retrait. C'était effectivement soit des forages publics, soit des barrages, l'eau des barrages qui sont dans le Jebel à quelques 50, 100 kilomètres au sud de Tripoli, qui devaient fournir l'eau de ces périmètres. Sauf que rapidement, en fait, il y a des problématiques de maintenance et ces périmètres ne sont plus irrigués. Donc pendant une dizaine, quinzaine d'années, ces périmètres, entre 85 et 2000, ces périmètres ne vont plus avoir d'eau. Donc les agriculteurs libyens vont faire une pression auprès des autorités locales pour pouvoir disposer de la ressource en eau en attendant l'hypothétique grande rivière artificielle. Et ce faisant, au tournant des années 2000, ils obtiennent en fait de la part des gouvernants locaux de pouvoir creuser leurs forages illicites en faisant effectivement travailler plutôt des Égyptiens qui sont eux qui ont la maîtrise technique de l'irrigation, et les Syriens interviennent pour faire les sondages et faire les forages.
Nous nous entendons bien avec la coopérative. Les ingénieurs font de leur mieux, ils surveillent nos terres, ils apportent des améliorations. Nous arrosons ces petits arbres tous les deux jours, nous les appelons les arbres à miel. Ils nous protègent du vent et du sable. Ici, le sol était complètement sec, il n'y avait ni eau ni vie. Aujourd'hui, on peut vraiment voir la différence. Tous ces réservoirs sont remplis d'eau provenant de la Grande Rivière.
Alors en effet, même si ce projet de Grande Rivière artificielle a souvent conduit à taxer Muammar Kadhafi d'homme fou, madman, plutôt que madman river, Virginie Colombier, on entend que beaucoup quand même sont plutôt très contents d'avoir accès à cette eau pure venant des grandes réserves souterraines du Sahara pour irriguer leur culture. Alors cette archive... Oui, maintenant on parle d'une archive quand ça date de 2001. Cet extrait sonore d'un documentaire le raconte. Virginie Colombier, qu'est-ce qui dans ce projet aujourd'hui a été une réussite et qu'est-ce qui, au contraire, n'a jamais été totalement achevé?
En termes techniques et technologiques, on peut dire que, contrairement un peu aux attentes, ça a été une réussite. L'infrastructure existe. Elle permet effectivement, avec ses milliers de kilomètres de réseau, d'approvisionner la population en eau, en particulier dans les villes côtières où la pression urbaine s'est accentuée considérablement. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, surtout dans un pays qui est désertique. L'aridité, initialement très forte, s'accentue au cours des dernières années. C'est aussi quelque chose qui est devenu encore plus important et encore plus criant, parce que l'aridité du climat devient de plus en plus forte. Donc cette question d'être capable de fournir de l'eau potable à la population, c'est véritablement quelque chose d'essentiel. La dimension agricole, en réalité, même si elle était fondamentale dans le projet initial, a très rapidement perdu de sa centralité. Ce que vous expliquiez auparavant, aussi le fait que la main-d'œuvre libyenne ou la force de travail libyenne n'est pas particulièrement intéressée par ce type d'activité, à part dans certaines communautés. Donc ça a une dimension très, très limitée sur le plan économique. La dépendance agricole, la dépendance alimentaire de la Libye, loin de se réduire,
de s'être résorbée, oui,
a au contraire augmenté de manière absolument dramatique. Où en fait, plus de 90% de ce que les gens consomment est importé. On l'a par exemple vu, et ça a été une des choses qui a accentué la crise au moment du Covid, parce que la dépendance alimentaire sur les produits, par exemple le blé, mais tout en fait, que ce soit la sauce tomate ou les spaghettis ou les boîtes de thon, vient de l'extérieur, qui fait que cette question-là n'a pas du tout été résolue. Au contraire, elle reste aujourd'hui une chose absolument centrale. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la capacité à organiser la maintenance, la gestion de cette installation. Un, bien sûr, parce qu'elle n'a pas été complètement terminée. Donc certaines zones qui devaient être reliées au réseau à l'heure actuelle ne le sont toujours pas. Et on doute que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui fasse figure de priorité en fait pour les autorités politiques concurrentes. Mais encore plus problématique parce qu'il faut arriver à maintenir cette installation en état. Et que dans un contexte de conflits politiques, mais aussi de crise qui parfois se traduit par des violences et des affrontements en fait, en particulier entre le pouvoir central et les communautés locales, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile. Donc les grands, comment dire, les résultats positifs qui avaient été obtenus aujourd'hui sont en partie menacés par les conséquences en fait de l'effondrement du régime en 2011 et par la crise politique qui s'en est suivie.
L'effondrement du régime en 2011, les bombardements de l'OTAN aussi, dont certains ont endommagé les tuyaux, les canalisations. Alors ça a même coupé très brutalement en 2011 l'approvisionnement de la rivière qui s'est ensuite rétabli cas un cas avec tout ce contexte politique que vous rappelez, Virginie Colombier, qui est très important pour comprendre aujourd'hui comment des groupes armés peuvent faire pression sur l'eau. L'eau est un moyen de pression dans le cadre des guerres civiles. Cet ingénieur Salah Al-Sadi de l'autorité de la Grande Rivière Artificielle, par exemple, expliquait en 2021 à RFI qu'il avait dû couper l'eau suite à l'action de groupes armés pour la libération d'Abdallah Al-Senoussi, à l'époque l'ancien bras armé de Kadhafi.
La coupure d'eau est toujours en cours. Les réseaux ne fonctionnent toujours pas. Les discussions qui ont lieu avec la famille Senoussi continuent, mais sans aboutir pour le moment. Hier, nous nous attendions à une journée décisive dans les discussions. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aucune solution n'a été trouvée. Aujourd'hui, nous avons fait un second communiqué pour expliquer que nous sommes contraints, devant cette situation, de ne pas mettre le système en marche en raison de l'insécurité qui menace les installations et les travailleurs. Nous considérons que le gouvernement est responsable et qu'il doit trouver une solution. Hier, nous avons rencontré le Premier ministre, Abdelhamid Daïba. Il nous a assuré qu'il allait trouver une solution radicale et rapide à ce problème. Déjà, la population en Libye souffre du manque d'électricité et d'argent liquide. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau dans l'ouest libyen. Nous espérons une résolution rapide à ce problème.
Est-ce que ce genre d'action de piratage sur la Grande Rivière, Virginie Colombier, sont fréquentes encore aujourd'hui, donc 4 ans après ce coup de fil à l'ingénieur Salah Al-Sadi? Est-ce qu'aujourd'hui encore, cette autorité de la Grande Rivière doit très régulièrement soit couper les vannes pour empêcher des groupes armés d'agir sur le réseau d'eau, ou tout simplement faire face à des coupures qui ont été provoquées par des actes de piraterie, et par qui?
C'est une situation qui malheureusement perdure aujourd'hui pour une raison principale. Un, c'est que l'eau, comme le pétrole, est une ressource stratégique, et que donc ça permet, en tout cas elle est utilisée dans certains contextes pour faire pression. Donc c'est devenu un moyen, de la même manière que certains groupes ou certaines communautés peuvent décider de bloquer ou l'extraction pétrolière ou par exemple les quais en fait de débarquement en fait pour l'exportation. On peut faire la même chose avec l'eau. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises, pas seulement au cours de la période récente comme vous le signalez dans l'interview que vous diffusez. Depuis 2011, il s'est produit à de nombreuses reprises que l'eau soit utilisée en fait comme justement moyen par des communautés locales, par des groupes armés qui ont des revendications et qui veulent faire entendre leur voix au pouvoir central à Tripoli, d'utiliser en fait cette arme-là, de couper l'approvisionnement en eau, de bloquer des puits, parfois même de dégrader des installations pour essayer de faire pression. C'est devenu en fait un moyen de chantage pour obliger le gouvernement central à réagir. Et donc ça s'est produit malheureusement régulièrement, parfois avec des conséquences assez dramatiques pour la population, en particulier des grandes villes où parfois il s'est produit que pendant 2 ou 3 jours, l'accès à l'eau potable du robinet était coupé. Et c'est quelque chose qui malheureusement encore continue. À ça s'ajoute malheureusement aussi une situation économique qui s'est beaucoup dégradée au cours des dernières années, et où en plus de cette utilisation de l'eau comme moyen de pression politique, on a aussi des pillages, des groupes qui essayent de s'emparer de certains matériels pour les revendre. Donc il y a tout un système en fait, et toute une sorte d'écosystème qui s'est constitué autour de cette grande rivière, qui est fait que son bon fonctionnement en fait est de plus en plus remis en question pour ces motifs-là.
Et quand vous dites que certains groupes aujourd'hui piratent ou coupent les vannes ou vont saboter des puits, puisque l'ONU en 2021 a mis en garde contre l'augmentation du nombre de puits sabotés qui ne cessait d'augmenter, à quel gouvernement ou quel état central ces groupes veulent-ils se faire entendre, auprès de qui veulent-ils se faire entendre, puisqu'on rappelle que la Libye est toujours aujourd'hui divisée en 2 centres de pouvoir distincts, le gouvernement dit d'unité nationale à l'ouest à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, gouvernement d'Abdelhamid Beba, et à l'est, les hommes du maréchal Haftar, autour de Benghazi. On pourrait se dire que cette concurrence que se livrent le maréchal Haftar d'un côté et le gouvernement d'Abdelhamid Beba de l'autre pourrait au moins avoir cette vertu que chacun veut montrer qu'il s'occupe mieux du peuple libyen que l'autre, et garantir justement l'accès à l'eau et une juste répartition des richesses. Comment expliquer que ça ne soit pas du tout ce qui se passe aujourd'hui?
C'est très intéressant ce que vous dites là. Effectivement, ça pourrait, et la question de l'eau pourrait devenir un enjeu central pour les deux gouvernements, les deux autorités concurrentes, pour essayer de montrer que l'un ou l'autre est meilleur pour répondre aux besoins de la population. De manière étrange, c'est pas quelque chose qui semble se traduire beaucoup sur cette question de l'eau. Bien sûr, il faut pour les gouvernements, enfin pour les deux autorités, faire en sorte que quand il y a des blocages, d'intervenir et faire en sorte que la situation soit rétablie rapidement. Mais il n'y a pas eu de grand discours en fait autour de cette question de l'eau, de l'approvisionnement, de la distribution juste. On n'a pas vu ça au cours des dernières années. En revanche, on voit le même type d'utilisation des questions de développement et de reconstruction, à la fois du côté de Haftar et du côté de Beba, mais sur d'autres choses. Par exemple, sur la reconstruction des infrastructures routières, sur un certain nombre de développements, de grands projets de construction et de développement, mais qui, encore une fois, touchent essentiellement les grandes villes, et en particulier Tripoli et Benghazi, et qui laissent de côté, dans une grande mesure, les communautés plus périphériques et plus marginales. Et donc, la question de l'eau reste un outil, en fait, pour les communautés ou les groupes qui veulent se faire entendre. De manière un peu surprenante, elle n'a pas été tellement mobilisée par les autorités concurrentes, à la mode de Kadhafi, en quelque sorte.
Au-delà de ce contexte politique, osons dire contextuel, enfin, pardon, le contraire de structurel, je vais y arriver. Au-delà de ce contexte politique-là, dont on peut se dire qu'il va finir par se résoudre, il y a le contexte climatique, ces nappes phréatiques sous le désert, sous le Sahara, qui ne sont pas renouvelables à l'infini, loin s'en faut, puisque le climat s'est par ailleurs a beaucoup changé depuis les années 50, quand on a découvert ces sources-là dans le bassin de Nubie. Est-ce qu'en même temps qu'avançait Sébastien Palluau, ce projet de rivière artificielle, étaient mises en œuvre d'autres techniques, des alternatives pour répondre en besoin en eau? C'est-à-dire, où est-ce qu'aujourd'hui la Libye ne compte vraiment que sur cette grande rivière artificielle?
Je pense que c'est l'une des problématiques à laquelle a abouti la construction de la grande rivière artificielle, c'est que ça, alors que dans les autres pays d'Afrique du Nord, il y a des politiques d'économie d'eau, en fait, ça a été quelque part l'alpha et l'oméga de la politique hydraulique libyenne, cette grande rivière artificielle. Donc la Libye a pris beaucoup de retard jusqu'à la fin des années 90 sur les démarches d'économie d'eau. Et quelque part, ça n'est qu'à partir du début des années 2000 que des projets de dessalement de l'eau de mer ont été aussi remis en œuvre pour augmenter l'offre en eau. Donc c'est vrai que toute cette capacité de résilience qu'avaient les sociétés d'agropasteurs libyennes au départ, en tout cas il y a une cinquantaine et encore une cinquante ou près d'un siècle, elle a quasiment disparu puisque... Il y a des besoins en eau qui sont de plus en plus importants et auxquels, aujourd'hui, la grande rivière artificielle, de toute façon, ne pourra pas répondre. En fait.
À l'époque de Mouammar Kadhafi, il était aussi question donc, de désaliniser l'eau de mer, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui par ailleurs. Projet de réutilisation aussi des eaux usées à usage agricole et même un grand projet de dérivation du fleuve Congo qui lui permettait à Mouammar Kadhafi d'appuyer son projet panafricaniste en disant on va lier les pays du continent les uns aux autres, etc. On a commencé cette émission en disant que les nappes phréatiques employées pour cette rivière artificielle sont à cheval sur la Libye, le Tchad, la Tunisie et le Soudan. Comment ont réagi ses voisins, Virginie Colombier? Et aujourd'hui, est-ce que ça pose des conflits, des problèmes entre la Libye et ses pays voisins qui pourraient dire que ces ressources aquifères leur appartiennent aussi?
Le cœur, en fait, du problème a essentiellement été avec l'Égypte. L'Égypte, donc grand voisin qui partage cette nappe souterraine fossile avec la Libye. Dans les années 80, il y avait aussi une situation de conflit entre les deux États. À l'époque, Kadhafi et Moubarak n'avaient pas de très très grandes relations, et donc ça a accentué en fait un contexte de tension entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est une thématique qui ressurgit, et qui ressurgit parce que, justement, du côté égyptien en particulier, il y a des risques et une menace qui pèse de plus en plus fortement sur la question de l'approvisionnement en eau, à la fois pour ce qui concerne les eaux du Nil, et si vous avez déjà eu une émission qui parlait, en fait, des grands barrages et du côté éthiopien en particulier.
Bien sûr, lundi.
Pour l'Égypte, il y a une menace ici absolument essentielle. Qui, d'une manière plus réduite, a son pendant en fait du côté libyen, avec cette utilisation des nappes souterraines communes en fait. Donc c'est quelque chose qui, à l'échelle régionale, on le voit donc Éthiopie, Égypte, Libye, le Soudan est actuellement dans une telle situation avec la guerre qui fait rage que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui également se retrouvera face à des problématiques similaires. Donc ça finit d'accentuer en fait et d'accroître les tensions au niveau régional.
Sébastien Palluau.
C'était notamment un axe au début des années 2000 pour de la Libye d'être le siège de mécanismes de dialogue interrégional, notamment effectivement avec l'Égypte et puis de l'autre côté avec l'Algérie et la Tunisie. Donc le pouvoir libyen avait essayé d'anticiper les risques de tensions que ça avec l'usage de la grande rivière artificielle allait amener. Donc, ils avaient essayé, effectivement, Tripoli avait essayé de se positionner. Et bon, à partir de 2011, effectivement, elle n'a pas pu jouer ce rôle.
وقلبي اللي ضاوي بيك انتي عقلي معاكي وين ما كنتي كل اللي ناقص كملتي وقلبي اللي ضاوي بيك انتي عقلي معاكي وين ما كنتي كل اللي ناقص كملتي والليلة معاك
كمل فرحي وجا اليوم اللي تكوني فيه جنبي بنظرة خطفتي قلبي معاك سحرنا عيونك خذني الغلاك احساسي اللي كله ليك وقلبي اللي طاير يبيك وعيني تخايل فيك في كل مكان احساسي اللي كله ليك وقلبي اللي طاير يبيك وعيني تخايل فيك في كل مكان وقلبي اللي ضاوي بيك انتي عقلي معاكي وين ما كنتي كل اللي ناقص كملتي وقلبي اللي ضاوي بيك انتي عقلي معاكي وين ما كنتي كل اللي ناقص كملتي وقلبي اللي ضاوي بيك انتي عقلي معاكي وين ما كنتي كل اللي ناقص كملتي
Bek Enti, avec toi, chante ce chanteur libyen Saleh Yasser. C'était en 2023. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur les grands travaux dans le monde des projets de la démesure. Aujourd'hui, la grande rivière artificielle de Libye, dont les travaux ont été lancés en 1984 par Muammar Kadhafi, dont les infrastructures par ailleurs existent toujours. Mais la Libye souffre d'une guerre civile qui dure et d'une partition de facto. Et ce qui a été conçu dans le passé est pour ainsi dire laissé à l'abandon, comme en avait dramatiquement témoigné il y a 2 ans. La rupture du barrage de Derna au nord-est en Cyrénaïque.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, les habitants de la ville côtière de Derna ont sans doute cru, terrés chez eux, serrés les uns contre les autres, que s'ils survivaient aux énormes craquements qu'ils entendaient dehors, il ne resterait en revanche pas grand-chose de leur ville. Sous le poids de la tempête subtropicale Daniel, venue du sud des Balkans, passée par les côtes turques et grecques, 2 barrages libyens ont cédé, ceux de Derna et Mansour. La submersion n'est pas venue de la mer, mais de la terre, et 11 000 personnes au moins ont péri dans les eaux. Au-delà de la violence de la tempête contre laquelle personne ne peut grand-chose, le très mauvais entretien des barrages, lui, a été criminel. Bonjour Aude Nussia Taïbi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Université d'Angers, membre du laboratoire Espace et Société ESO du CNRS, membre senior de l'Institut Universitaire de France. Quels éléments a-t-on aujourd'hui, Aude Nussia Taïbi? Quels documents, quelles déclarations ou tout ce que vous avez pu trouver dans le cadre de vos recherches qui attestent que ces barrages étaient en effet mal entretenus?
Effectivement... L'année précédant la catastrophe, en 2022, il y a un chercheur libyen, Monsieur Achour, qui a réalisé un travail, alors je ne sais pas à la demande de qui, mais en tout cas publié dans une revue reconnue scientifique, où il pointait justement, alors il n'avait pas expliqué, enfin c'était pas dit extrêmement clairement, mais où il pointait un problème, en tout cas d'entretien de ces barrages, et il s'inquiétait justement du fait qu'il y avait un risque de catastrophe en lien avec ce manque d'entretien. C'était vraiment un an avant.
Un an avant, on sait aussi que dans les années 2000, des entreprises suisses ou italiennes ont été missionnées pour faire des audits sur ces barrages, qu'un groupe turc en 2007 avait facturé des travaux de réhabilitation pour 30 millions de dollars. Alors on ne sait pas si ça veut dire qu'il y avait beaucoup de dégâts à réparer ou beaucoup de corruption, mais en tout cas le pays pouvait se préparer, notamment parce que la Libye a connu beaucoup de crues dans le passé.
Oui, en fait, c'est ça qui est... Enfin, paradoxal, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce type de phénomène, d'aléa, en réalité, n'a rien d'exceptionnel, hein, finalement, dans ces régions. Hein, on est en zone méditerranéenne semi-aride, et ce type d'événement arrive régulièrement. Ça a été recensé notamment par cet auteur, hein, qui montre à peu près tous les 10 ans, on va voir ce type de phénomène. Et justement, ces barrages avaient été construits en partie pour ce qu'on appelle écréter les crues, c'est-à-dire protéger la ville en contrebas contre ces fameuses crues éclairs ou flash floods qui ont généré la destruction en 2023.
D'où d'ailleurs, enfin d'où l'importance aussi pour cette ville portuaire de Derna de se protéger. Elle a été bâtie entre mer et montagne et tous les épisodes de très fortes pluies font déborder les oued. Mais dans un pays éclaté comme la Libye, Aude Nussia Taïbi, qui est censé s'occuper de l'entretien des barrages? Est-ce qu'il y a des structures qui prévoient, qui coordonnent l'entretien?
Oui, ben normalement c'est les autorités publiques, hein, de manière générale. Vous l'avez dit, hein, les barrages ont été construits dans les années 70 par une entreprise yougoslave, je crois. De manière générale, c'était les Yougoslaves à cette période qui ont construit à l'échelle de, enfin en tout cas en Algérie notamment, c'est beaucoup des entreprises yougoslaves aussi qui les ont construits. Le même type de barrage. Il n'y a pas eu de problème particulier, j'allais dire, ailleurs. Donc on peut penser qu'effectivement, si celui-ci, enfin ces deux barrages, parce que c'est bien les deux barrages qui se sont rompus le 10 septembre, enfin dans la nuit du 10 au 11, c'est bien parce qu'il y a eu un problème de non-entretien. Alors pourquoi le non-entretien? Est-ce que, je ne sais pas, ce qui a été dit après, mais là je me fie à ce que j'ai lu moi-même dans les journaux ou entendu au niveau d'Al Jazeera ou à RFI, hein, donc je n'ai pas de certitude sur ce plan-là, mais est-ce que l'argent a été détourné? Est-ce que c'est les problèmes effectivement entre l'Est et l'Ouest en Libye qui fait que quelque part cette ville a été, qui a en plus été à un moment donné un bastion islamiste, est-ce qu'on l'aurait abandonné en quelque sorte? Ça je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais en tout cas effectivement il y a un problème visiblement d'entretien des ouvrages qui explique leur rupture.
Voilà, leur rupture quand la tempête Daniel s'est approchée, quand elle a été annoncée alors que les barrages tenaient encore, est-ce qu'une alerte a été donnée et par qui? Puisqu'encore une fois en Libye, savoir qui détient l'autorité est une gageure.
Alors là aussi, si je me fie à ce que j'ai lu là aussi dans les comptes rendus après la catastrophe, il semblerait qu'il y ait eu des alertes qui étaient données, mais qu'elles étaient contradictoires. En tout cas, c'est ce que la population a dit après coup. Donc certaines informations conseillaient de quitter les lieux, d'autres au contraire de rester sur place. Et on sait très bien que justement en termes de gestion des risques, il faut une information qui soit claire et qui ne fasse pas douter les personnes. Donc là, on a deux informations contradictoires qui ont été apparemment fournies, qui fait que les gens ne savent pas au final ce qu'ils doivent faire. Et par ailleurs, le contexte plus général où il y a une défiance vis-à-vis des autorités de manière un peu général en Libye, mais peut-être encore plus dans la partie Est, qui fait que même en ayant une information qui pouvait sembler fiable, les gens ont vraisemblablement eu aussi un doute. Et dans ce cas-là, quand on a un doute, on ne sait pas quoi faire, ça favorise les phénomènes de panique, et puis on fait au petit bonheur la chance, avec les conséquences que ça a eu. D'autant plus que c'était pendant la nuit.
C'est
encore plus compliqué.
Oui, mais quand est-ce qu'on peut appeler rapidement la prévention des risques? Est-ce qu'il existe à Derna, ne serait-ce qu'une équipe municipale et des règles pour délimiter les périmètres constructibles, interdire la construction en zone inondable? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça a existé?
Alors, en fait, je pense, j'ai pas le détail hein, sur le fonctionnement précis au niveau de la ville, est-ce qu'il existait un service spécifique qui s'occupe de ça. Mais de toute façon, ce qu'on observe, qu'il y ait ou pas ce service, on voit bien que l'illusion, j'allais dire, d'être protégé contre ces crues éclairs après la construction des barrages, a favorisé derrière, par méconnaissance ou par absence d'information de la population par les autorités, en tout cas l'illusion d'être protégé a favorisé l'urbanisation totale finalement des anciennes zones inondables, parce que quand on regarde les images après la catastrophe, on voit bien qu'en réalité l'Oued Derna a repris son ancien chenal et ses anciennes zones inondables, là où les gens avaient construit de manière inconsidérée.
En tout cas, on sait qu'après cette nuit cauchemardesque du 11 septembre 2023, les habitants de Derna ont été livrés à eux-mêmes pendant plusieurs jours, que les secours ne les ont pas atteints, que aussi pour des raisons d'information qui peut-être circulaient mal. Bon, en tout cas, on sait qu'ils ont été livrés à eux-mêmes et qu'un élan de solidarité est venu en revanche de toute la Libye. La Libye est un pays qui est divisé, partitionné, comme on dit depuis longtemps. Mais néanmoins, quand une catastrophe comme celle-ci survient, c'est tout un pays, toute une société qui contribue à aider ceux qui sont endeuillés, qui sont blessés, qui sont victimes. Est-ce que Derna, depuis, a été ne serait-ce que partiellement reconstruite et par qui, Nusia Taibi?
Alors, il semblerait, là aussi, je vous dis, je me fie à ce que j'ai pu lire et écouter, notamment RFI et Al Jazeera, qui sont finalement les médias qui ont le plus d'informations. Il semblerait qu'effectivement, il y ait eu, dès 2024, un fonds dit de développement et de reconstruction de la Libye qui a été mis en place, avec des fonds. Alors, j'ai trouvé des équivalents en dinars qui seraient de l'ordre de 2 milliards d'euros pour cette reconstruction. Par contre, ce qui semble poser problème, c'est que tout ceci reste relativement opaque. Apparemment, les fonds ont été confiés à un des fils du général Haftar, qui est Belkacem, qui communique beaucoup sur les médias, notamment, sur les chantiers. Les chantiers qui apparemment sont gigantesques, qui sont menés notamment à Derna. Mais ce qui semble, enfin les critiques qui s'élèvent contre ces actions, c'est leur opacité en fait, et qu'apparemment il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de transparence sur la manière dont cet argent est dépensé, la manière dont ces reconstructions se font. Et puis également sur la qualité des reconstructions. Alors j'ai essayé de regarder à partir de l'imagerie satellitaire justement pour voir le avant-après, mais malheureusement, notamment sur Google Earth, les dernières images datent encore de 2024. Donc ce qui fait qu'on peut pas encore voir la réalité des constructions, mais bon, voilà, je pense que d'ici quelques mois où Google Earth va mettre de nouvelles images, on pourra vérifier la validité, la véracité, j'allais dire, cette reconstruction.
Merci.
Dans les discours, il y a reconstruction à Derna, et apparemment spectaculaire. Mais bon.
Merci beaucoup, Aude Nusia Taibi, professeure de géographie à l'Université d'Angers. Vous êtes membre du laboratoire Espace et Société du CNRS. Une semaine avant que les barrages de Mansour et de Derna ne cèdent, il y a 2 ans, le poète libyen Mustapha Al-Trabelsi déclamait « La pluie expose les rues détrempées, l'entrepreneur tricheur et l'État défaillant », ces vers publiés par Orient 21. Peut-être, Virginie Colombier, qu'il est utile en quelques mots, on arrive à la fin de cette émission, mais juste en 2 mots de dire le contexte politique de cette ville de Derna qui a été très longtemps abandonnée par Kadhafi.
C'est une ville qui a une dimension symbolique majeure. C'était une sorte de centre culturel où la vie poétique, musicale était très importante et très riche, qui ensuite est devenue, comme le disait votre interlocutrice, aussi un centre de la mouvance islamiste opposée à Kadhafi et par la suite même les retours de djihadistes de l'extérieur, et qui a été assiégée pendant plusieurs années par les forces de Haftar, qui finalement ont lancé une grande offensive militaire pour en reprendre le contrôle en 2017-2018. Et donc c'est une sorte qui est de ville qui a une dimension symbolique très très chargée, très forte dans le contexte libyen, qui a été une ville phare, mais aussi une ville martyr. Et donc c'est aussi quelque chose qui a été réactivé en quelque sorte par la catastrophe et par le grand élan populaire qui a mobilisé les Libyens pour essayer de répondre à la catastrophe.
Deux ans. Merci beaucoup, Virginie Colombier, professeure à l'Université Louise Guido Carli de Rome. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Rome. Merci beaucoup, Sébastien Palluau, également géographe, auteur de cette thèse sur le développement de l'irrigation dans la Djeffara tuniso-libyenne. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Alors qu'en France, Catherine, le gouvernement de Sébastien Lecornu propose de suspendre l'impopulaire réforme des retraites jusqu'à la prochaine présidentielle, évitant ainsi une censure du Parti Socialiste à l'Assemblée, en Belgique, c'est dans la rue que la réforme des retraites a été contestée en masse.
Dans le centre de Bruxelles hier, beaucoup portaient les couleurs rouges ou vertes des principaux syndicats belges. Paris réussit, affirme la RTBF. Paris réussit pour les syndicats qui ont compté hier 140 000 manifestants dans les rues de Bruxelles, 80 000 selon la police, indique la Libre Belgique. Des étudiants, des travailleurs plus ou moins jeunes du secteur de la santé, du social, de la culture, des allocataires sociaux notamment, sont venus en train et en bus depuis Liège, depuis Charleroi. Direction donc Bruxelles, raconte la RTBF et le quotidien La Libre Belgique, pour exprimer leur colère contre les mesures du gouvernement de Wever. Le conservateur flamand veut mettre en œuvre une vaste réforme des retraites, initiée il y a 10 ans maintenant et qui inclut aujourd'hui la suppression des régimes spéciaux, des cheminots et des militaires notamment, ainsi que l'alignement de la situation des fonctionnaires sur le secteur privé, après avoir par ailleurs limité à 2 ans la durée des allocations chômage. Les syndicats, eux, ont crié haut et fort leur refus de relever l'âge de départ à la retraite à 66 ans pour celles et ceux nés entre 1960 et 1963, puis 67 ans pour les suivants, indique le journal Le Soir. Alors que partir à la retraite avant l'âge légal sera de plus en plus fortement pénalisé, prévient Le Soir. Injuste, selon les 100 000 Belges qui ont donc manifesté hier à Bruxelles.
Beaucoup pensaient que les mesures gouvernementales ne toucheraient que les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, nous voyons que les actifs sont touchés, que celles et ceux qui veulent prendre leur pension risquent de perdre plusieurs centaines d'euros de pension à vie, et ce tous les mois, et c'est cela qui doit cesser aujourd'hui.
Surtout nous, les femmes, c'est elles en majeure partie qui vont payer les conséquences, parce que souvent, la carrière complète, ne l'ont pas, parce que c'est elles, vu que c'est les plus petits salaires, c'est elles qui arrêtent de travailler une période pour élever leurs enfants.
On avait inventé en France, travailler plus pour gagner plus. Ici, c'est travailler plus pour gagner moins. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la caisse des gens.
Les gens ne réalisent que maintenant ce que signifient les coupes budgétaires, titre le quotidien belge de Standard, et les manifestants et les syndicats dénoncent une attaque en règle de manière plus générale du modèle social en Belgique, alors que le gouvernement insiste lui sur la contrainte de répondre au vieillissement de la population, défi auquel tous les pays européens font face, rappelle la RTBF. D'ici 2050, il ne devrait rester que 2 personnes en âge de travailler pour chaque retraité contre 3 aujourd'hui. Et avec un départ à la retraite à l'âge canonique de 67 ans, explique encore la RTBF, les Belges arrêteront de travailler 3 ans plus tard que leurs voisins français et seulement 1 an après les travailleurs allemands. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la Belgique est l'un des pays où l'âge pour partir à la retraite est le plus tardif. Il n'y avait qu'à présent que l'Estonie, note la RTBF, qui faisait travailler ses habitants 1 année de plus que les Belges. Mais les Danois ont adopté une loi en mai dernier pour repousser l'âge du départ à 70 ans à partir de 2040. Mais quelle qualité de vie pour les travailleurs, pour les retraités? Quelles conséquences, plus généralement, des coupes sociales dans le budget belge de l'an prochain? Ces questions inquiètent les syndicalistes interrogés par le quotidien de Standard, une colère sociale et des débordements. Hier, la police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes lorsque la manifestation à Bruxelles a pris un tour violent, avec l'hôtel Hilton notamment, pris pour cible près de la gare centrale. Vitrine brisée ou taguée, une benne à ordures incendiée, 20 de personnes interpellées, indique le quotidien Le Soir. Au-delà de ces affrontements avec la police hier, ce que les syndicats veulent retenir, c'est le succès de la mobilisation massive et ils se réuniront en front commun toujours, annonce la Libre Belgique, mardi prochain, le 21 octobre, pour décider des suites à donner à leur mouvement, avec qui sait, de nouvelles grèves avant la fin de l'année et la tentation, comme en France, de faire chuter le gouvernement.
Et pour la suite et fin de votre revue de presse, un nouveau front s'est ouvert dans la guerre commerciale contre la Chine.
Le gouvernement néerlandais a invoqué pour la première fois de son histoire une loi datant de la guerre froide pour prendre le contrôle de Nexperia, une entreprise qui fabrique des composants électroniques et qui est basée aux Pays-Bas. Le ministre néerlandais de l'économie a expliqué auprès de la chaîne publique Nos avoir récemment reçu des signaux graves et urgents montrant que l'entreprise chinoise présente des lacunes majeures susceptibles de compromettre la sécurité économique de l'Europe et l'approvisionnement européen. européen en semi-conducteurs, en puces électroniques pour les voitures et autres produits grand public, rapporte le quotidien de Volkskrant. Colère et consternation à Pékin, la Chine interdit désormais d'exporter tous les produits fabriqués par Nexperia depuis la Chine. C'est ce qu'annonce l'agence de presse chinoise Xinhua, ainsi que la radio néerlandaise BNR, un nouveau bras de fer donc qui s'inscrit dans la guerre commerciale plus large entre les États-Unis et la Chine.
Merci Catherine Dutu.